l'immobilier en question sur Sensation Normandie.
Bonsoir, nous sommes sur Sensation Normandie 93.4. Très heureux de vous retrouver pour votre mag L'immobilier en question. Deuxième partie du marché de l'immobilier pour cette année 2018. Un ralentissement, pas de ralentissement, le marché 2019 et du rôle central des banques sur le marché du logement. Toujours nos deux professionnels pour nous accompagner dans cette émission. Fidèle comme toujours, Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir.
Bonsoir Pascal.
Xavier Huer, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir.
Bonsoir Pascal.
Alors, ce marché de l'immobilier en 2018, nous avons parlé de l'ancien. Vous touchez un peu à la construction, au neuf.
Oui, au départ, c'est même notre cœur de métier quand on a ouvert. On a fait beaucoup, beaucoup de construction.
Comment se porte-t-il ce marché du neuf en 2018 ou comment s'est-il porté ?
Il a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué dans le sens où, par exemple, dans des secteurs comme le nôtre, de petites villes, ça s'est carrément effondré. Faut être clair. Hein. Par contre, sur des grandes agglomérations, Cannes, Rouennais, Évreux, etc., il y a beaucoup de programmes de lotissement, il y a beaucoup de constructions qui sont. Mais ça se centralise de plus en plus autour des grands pôles urbains. Dans notre petite ville de Bernay, malheureusement, ça a bien du mal en ce moment.
Mais pourtant, on voit ça pousser un peu partout.
C'est des ventes qui ont été faites il y a déjà un an, le temps d'avoir les permis de construire, etc. Donc ce que vous voyez sortir de terre aujourd'hui, c'est des projets de l'année dernière.
Donc c'est une très bonne transition, Xavier, parce qu'en fait, vous parlez des délais qui sont relativement longs. Et il me semble qu'il y a... Alors, on a parlé de la loi Allure, on a notre loi Allure, et on a la loi Élan également. Et je crois que la loi Élan en parle. En préparant cette émission, j'ai vu ça, qui a pour but de raccourcir les délais, en fait.
C'est ça. En fait, la loi Élan est censée aménager la qualité de vie et puis raccourcir les délais de construction, notamment en supprimant certaines normes, en regroupant certains organismes de logements sociaux et puis en imposant aussi des nouveaux diagnostics de construction sur les terrains.
Alors, est-ce que le fait de raccourcir des délais vous sent favorable ? Est-ce que c'est pour vous favorable à la construction ?
Oui, en face de la construction, au jour d'aujourd'hui, on a l'ancien. Clairement, il y a des gens qui sont mutés, qui n'ont pas le temps de faire construire, qui souhaiteraient, bon, il y en a qui ne souhaitent pas, mais il y en a qui souhaiteraient du neuf et qui ne veulent pas prendre l'année, finalement, qu'un tel projet prend. Et encore un an, c'est parfois même un an et demi. C'est vrai que raccourcir ces délais peut faire du bien à la construction.
Pour une construction, quelqu'un qui vient vous voir, qui a trouvé son terrain, alors il a déjà au moins mis 3 mois pour trouver son terrain, voire l'acheter. Effectivement, combien de temps peut-il prétendre pour rentrer dans sa maison ?
S'il a son terrain, c'est pas pour ça qu'il a sa maison. Le problème, quand on trouve un terrain sur le bon coin, sur une agence immobilière, sur peu importe, vous trouvez votre terrain, mais vous connaissez pas les impositions qu'il y a sur ce terrain-là. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce que c'est. Donc, vous connaissez pas le coût final de votre maison. On va avoir des bords de toit, des briquettes, peu importe, mais des tas d'options qui vont être obligatoires dans le PLU, tout simplement. Et le client n'a pas toujours connaissance. Donc déjà, quand il a son terrain, il faut aussi regarder les impositions, tout ce qui va être obligatoire sur la construction.
Quel genre d'options ?
Des bords de toit, donc c'est tout bête, hein, mais les débords de toit, ça se facture chez un constructeur. Donc si vous avez fait un devis pour une maison de 100 mètres carrés sans débords de toit, sans rien, vous trouvez votre terrain et que finalement il vous faut des débords de toit, il vous faut une microstation au niveau des eaux usées, vous reprenez 20 000 euros, vous n'avez rien vu, mais 20 000 euros, ça passe peut-être pas dans votre financement. Donc trouver un terrain, c'est bien. À mon avis, il vaut mieux déjà trouver la maison qui vous va et voir avec le constructeur les terrains qu'il a ou les terrains qu'il peut avoir et qui rentrent dans votre budget.
Est-ce que vous avez, vous Jacques, des clients qui étaient partis sur une construction neuve, dont Xavier nous explique le cas, et qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas jouable, et qu'ils reviennent vous voir pour dire on va acheter de l'ancien. C'est un peu compliqué de faire du neuf, donc on va acheter de l'ancien.
Oui, on a ce cas, parce qu'on a même des gens qui, au départ, viennent pour des terrains, et quand on va regarder leur budget et certaines contraintes qu'ils se fixent pour le neuf, on va même plutôt les rediriger vers de l'ancien. Alors certes, ancien avec travaux, mais qui vont leur apporter une sécurité pour un bien déjà bâti. Après, la problématique du neuf, comme le disait Xavier, c'est la situation du terrain et les règles d'urbanisme que le client ne sait pas forcément analyser.
À partir de quand vous considérez qu'un bien est considéré comme un bien ancien ?
À partir du lendemain où il est livré.
C'est ça, c'est-à-dire que Xavier a vendu une maison, un financement, etc. Le client l'a habité, il revend.
Voilà.
C'est considéré comme de l'ancien ou pas ?
Alors, on va avoir une nuance entre récent et ancien.
Voilà, il y a le terme récent entre deux.
Il n'y a pas de normes.
Mais ce n'est pas défini.
Enfin, pour une agence immobilière. Donc, à partir du moment où même la maison a été habitée un jour, j'aurais tendance à dire que le bien, entre guillemets, va être ancien. Par contre, n'aura pas la même valeur que certains biens anciens parce qu'il va avoir des garanties qui vont continuer à courir, qui vont valoriser l'estimation de ce bien.
Je reviens un petit peu dans votre travail et de près, Xavier. Lorsque vous avez un client qui a un refus de prêt, est-ce que c'est toujours la question de notre Caroline qui nous a déjà posé une question à l'émission précédente. Elle me dit « J'avais eu mon refus de prêt et je n'ai pas eu le pourquoi de la chose. Pourquoi est-ce qu'on m'a refusé le prêt ?»
Une banque n'est pas obligée, ni un courtier d'ailleurs, de vous donner le motif du refus. On a des obligations légales, on est très encadré, on doit faire certaines déclarations à des services fiscaux, à des procureurs en cas de transactions un peu particulières sur les comptes, des choses comme ça. Donc on peut faire un refus et on n'est pas obligé de dire pourquoi. En général, on le dit.
Non mais voilà, c'était ma question, ça.
Par contre, il n'y a pas d'obligation, c'est vrai.
Il n'y a pas d'obligation, mais pour aller dans le sens du client, c'est quand même positif de lui dire pourquoi.
Oui, alors, c'est aussi notre travail de courtier par rapport au banquier. On est quand même entre la banque et le client. On est là aussi pour informer le client, éventuellement lui expliquer comment on va pouvoir représenter son dossier dans quelques temps, dans combien de temps, qu'est-ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit se tenir au niveau de son dossier. Qu'est-ce qui est bloqué ? C'est son revenu ? C'est sa tenue de compte ? C'est son enveloppe ? Il a l'enveloppe, il a un bon revenu, mais il a 6 mois d'ancienneté, il achète une maison à 300 000. Il faut peut-être revenir un petit peu à des choses plus réelles, plus concrètes, à 200 000.
Merci pour la transition. Est-ce que vous, messieurs, vous avez un devoir de conseil, Jacques ?
On a obligatoirement un devoir de conseil. Parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi à un client. Le client est majeur et normalement responsable, donc il y a certaines décisions qu'on va lui déconseiller, mais qu'il va quand même prendre dans un sens ou dans un autre. Mais nous avons un devoir de conseil et d'information vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de ce qui doit être fait, de ce qui doit être respecté.
C'est votre cas aussi, Xavier ?
Oui, tout à fait.
Vous avez aussi un devoir de conseil ?
Oui, bien sûr, on a un devoir de conseil, c'est toujours dans l'intérêt du client. Après, on a des tas de lois sur la protection du consommateur qui nous mettent aussi qui nous obligent à informer le client sur un tas de choses, même des fois qui ne sont pas favorables à notre métier, hein. Mais il faut tout expliquer au client. Ensuite, c'est à lui de trancher, à lui de se faire une idée. Par contre, nous sommes obligés de l'informer sur un tas de choses. Oui.
Alors, est-ce que le banquier, lui aussi, a un devoir de conseil ? Parce que c'est un peu à double tranchant, ça, quand même. Est-ce que le banquier qui, lui, et on n'en a pas autour de la table, donc on peut en parler plus facilement, mais qui, lui, se dit « j'ai peut-être un produit financier, on va parler de SCPI, par exemple, à vendre, par exemple, et on en reparlera dans une émission, dans une prochaine émission de SCPI, mais est-ce qu'il n'a pas intérêt non plus à mettre de côté un peu le dossier que vous allez lui présenter pour essayer, lui, de son côté, lui vendre un peu de papier de SCI. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, c'est une question, Xavier.
La réponse, elle est assez simple, c'est qu'en passant par un courtier, on a accès à toutes les banques. Moi, un banquier qui me fait un refus et qui essaye de vendre de la pierre papier à des clients derrière, de toute façon, ce n'est pas ses clients puisqu'il a fait un refus, c'est les miens. Et forcément, s'il m'a fait un refus, moi, je vais chercher un accord ailleurs. Hein. Je vais pas laisser les clients. Enfin, et d'ailleurs, on cherche toujours dans plusieurs banques pour comparer les taux. Hein.
Donc vous, en tant qu'intermédiaire, vous pouvez taper du poing sur la table avez envie de taper du poing sur la table.
Par rapport à notre volume d'affaires, de toute façon, on n'a pas le même poids qu'un client standard avec
le
conseiller
client
local.
Qui va directement voir son banquier, il ne va pas savoir tout ça.
Non.
Donc effectivement, le banquier va peut-être pouvoir l'orienter où il a envie de l'orienter.
Le banquier est objectivé aussi sur certains produits financiers qu'il a à vendre, il doit en faire tant dans l'année. Alors il a des obligations, il a des devoirs de conseil, il a des précautions à prendre, il vous fait signer des liasses et des liasses de papier, de décharge, de tout ce que vous voulez, mais c'est quand même une banque commerciale. Hein.
Oui, on est tous là, enfin vous êtes tous là pour faire du business et effectivement, on va pas. Vous prenez des honoraires en tant que courtier, l'agent immobilier prend des honoraires en tant qu'agent immobilier, au même titre que le banquier, directement ou indirectement, il vous arrange ça comme il veut, mais il a lui aussi des honoraires.
Il a une marge à faire aussi.
Systématiquement.
Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Et on a encore plein de choses à dire. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cette troisième partie d'émission. Merci, messieurs.
Bonsoir.
Vous pouvez retrouver ce mag en podcast dans votre magazine L'Immobilier en question et sur notre chaîne YouTube, radiosensation.fr. Rendez-vous vendredi prochain à 19h35 après le Flash Info Régional pour la troisième et dernière partie de cette émission. Très bonne soirée.